Io sono il fortunato ragazzone, recente acquisto dell'umanità. Ho una superba faccia da frescone, esuberante imbecillità. Sportivo a tempo perso, un po' monello, con la pipetta in bocca me ne vo. Atteggio a prepotente, a picchiatello, poi saputello, eppure nulla so. Marcello, io sono il piccolo Marcello, pamputello, sbarbatello, sfrontatello, spacciatello.
Marcello,
sono più leggero di un fuscello, più prezioso di un gioiello, più innocente di un porcello.
Marcello,
Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù. È strano, lo so, ma un fascino, no, ce l'ho, ce l'ho, ma chi che dingrindina che ce l'ho. Marcello, son fatuo come un venticello, lieto come uno stornello, fesso come un somarello.
Marcello,
col microscopico cervello, più piccino di un pisello, penso solo che sono bello, sono il bello di mamma.
Bonsoir e benvenuti a Radio Galera, 428.4 FM, voi siete le cuttanine domani a Palermo. Tu le premiere et troisième lundi du mois, vous pouvez écouter les émissions sia en podcast sur le site radiogalère.org en tapanino domani a Palermo. Aujourd'hui, on parle d'un prix Nobel, on parle niente poco di meno che, c'est-à-dire rien petit moins que, c'est-à-dire on parle que, on parle d'un grand auteur. On parle de Luigi Pirandello. Luigi Pirandello né a 1867, giusto pre l'unificazione dell'Italia, che siete a 1866, avec la conquête par Garibaldi du Royaume Bourbon du sud dell'Italia. Il Semari a 1894 avec Antonietta, siete un folle. E il resto fedele a Sette Folle giusto a 1919. Al 1904 i recri sono romani che Louvre le se il fu Mattia Pascal. E in fait lui dans ses romans pourquoi il fu Mattia Pascal, c'est-à-dire fu Mattia Pascal, parce que le protagoniste de ce roman découvre qu'il est mort. Il lit dans le journal par hasard que Mattia Pascal il est mort. Et donc il se ramène une autre vie. Dans cette autre vie-là, par contre, il change de nom, il change d'identité. Surtout, on s'appelle ce concept d'identité. De Mattia Pascal il devient Adriano Meis. E en changeant d'identité, il reste toujours un perdant. Pourquoi un perdant? Pourquoi il n'a pas de vie sociale? Parce que Adriano Meis è quelque chose qui n'existe pas. Mattia Pascal è quelque chose qui est mort. Et en plus, quand il se rend compte que sa vie n'existe pas, il va retourner à ses anciennes habitudes, il va retourner à ses anciennes vies, il est un perdant, il résulte un perdant parce que sa femme s'est remariée, il a perdu tout ce qu'il avait. Donc c'est une sorte d'inetto, comme on dit en italien, inertie, quelque chose qui lui bloque, la crise d'identité. Il y a un aspect autoreflexif, c'est l'anti-roman, et c'est un personnage sans identité. Pendant les romans, dans les romans, il y a plusieurs réflexions philosophiques. Par exemple, il parle de lo strappo del cielo di carta, la déchirure du sel de papier. Il image qui se vit, c'est comme un théâtre de marionnettes, un moment dans ce théâtre, il y a une déchirure du ciel, et donc la vie s'écroule, Pourquoi? Parce que le ciel se déchire, même le ciel, l'omnipotence, le pouvoir total se déchire. Et même le ciel, il est plus vulnérable. Donc il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de réalité. L'individualité est perdue. C'est le premier roman italien dans le sens moderne. C'est un anti-roman, c'est le roman sur l'insurrection, sur le fait d'être pas sûr. En 1908, il écrit un essai sur l'humorisme, parce qu'il cherchait d'avoir une place à l'université, il cherchait de faire, d'être professeur à l'université, donc il écrit cet essai sur l'humorisme. Et il y a dans cet essai une différence marquante entre humorisme et comique. Le comique, c'est l'avertissement du contraire. L'humorisme, c'est le sentiment du contraire. Qu'est-ce que c'est le sentiment du contraire? La chose, l'effet comique, est perçu à l'envers. Et les raisons, par contre, ne sont pas comiques. Il se perd la capacité de désillusionner et il prend le sens de l'absurde et des choses qui, dans une certaine façon, sont décalées. Il fait l'esempio, immaginez une vieille dame qui monte sur un moto. Il faut contextualiser la situation au premier année du 1900. Cette vieille femme qui monte sur le moto, ça nous fait rire, parce que c'est un vieille qui monte sur un moto de gros cylindre. Mais en même temps, on se demande, ok, ça nous fait rire parce que c'est l'avertissement de l'envers, mais en même temps, il y a le sentiment de l'envers. Donc tu as un rire comique, en même temps un rire amer. Parce que l'humorisme perçoit quelque chose de, comment dire, décalé par rapport à la vérité, mais qui ti surmonte une réflexion de tristesse. C'est pas l'ironie, c'est pas la comédie, c'est pas les comiques. Les comiques, c'est quelqu'un qui tombe et ti fa rire. L'humorisme, c'est tu perçois le ribaltement della situazione, tu perçois quelque chose qui n'est pas cohérent, la vieille qui monte sur le moto de gros cylindre, mais c'est un riz amer, voilà. En 1905, il écrit le roman Serafino Gubbio Operatore, c'est un roman sur un messier, Serafino Gubbio, qui vede venire. Il est pris par le charme du cinéma, il veut travailler dans le cinéma, mais en réalité il se retrouve à retourner au manivelle. On pense que les anciennes caméras de l'époque, il faudrait retourner à manivelle. Et donc son travail, ça ne devient pas quelque chose de créatif, mais plutôt quelque chose de constrictif, il retourne à manivelle. Et voilà qu'on arrive au théâtre, il écrit déjà plusieurs pièces de théâtre, mais en 1917 il écrit « Così è se vi pare ». C'est un texte très réflexif qui joue sur l'invisible, sur les ressources de l'espace scénique. Je vais vite parce qu'il faut faire vite sulla chronologie, sulla vie des auteurs. En 1918, il écrit Il gioco delle parti. On reviendra sur Così è se vi pare, second ça, si vous semble, littéralement, le jeu de rôle, il gioco delle parti. Et en 1919, il était marié avec Antonietta, il a fait hospitaliser dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle était folle. Là, ça finit son histoire d'amour qu'il n'a jamais aimé cette femme, mais en même temps, il est toujours resté fidèle à cette femme jusqu'à quand elle est devenue Antanable era devenut del Manfol. La follia è un show che reviene su Vanda le sefre di Pirandello. A 1921 il ecri la première de si personaggi in Cherche d'Auteur se un aspetto rivoluzionario della compagnia. In fait, on voit un compagnie teatrale qui fait des épreuves, qui fait des mises en scène d'une comédie. Et il y a des personnages irréels qui viennent à déranger les acteurs et les capocomicos. Capocomico à l'époque, c'était le chef de la compagnie théâtrale. Et c'est un succès international. C'est du méta-théâtre, naturellement. On retournera sur le méta-théâtre après. Et on revient en s'y anticipant le méta-théâtre. En 1922, il écrit Enrico IV, Enrico IV, qui est quelque chose, c'est comme un miroir entre une autre réalité et une illusion. C'est centré sur le thème de la folie. La folie, c'est un thème très cher à Pirandello. Et pour son parcours de vie avec sa femme, et parce qu'il développe le théâtre de Pirandello, se développe sur la folie, sur l'identité, sur la société, sur la corde civile, sur la corde fou, comme il disait, folle. Et c'est un théâtre qui, corps civil et corps folle, ça veut dire la société nous prétend dans une certaine façon, nous on a une certaine façon de s'exposer aux autres, mais nous on a en réalité quelque chose d'autre. Il faut régler et serrer la corde civile et la corde fou. Enrico IV, c'est rien d'autre que la folie, la corde fou. A 1924, il écrit, il récite, il fait, il donne la scène, ciascuno a suo modo, chacun a sa façon. Et questa sera si dirige, ce soir, on récite à sujet, c'est-à-dire en improvisant, à 1930, et six personnages en Cherche d'Auteur, qu'on a déjà cité. Ces trois œuvres rentrent dans la méta-théâtralité, dans le théâtre, dans le théâtre. Théâtre dans le théâtre, que ça veut dire? C'est en fait, Pirandello il fait une recherche stylistique, il surmonte les fils logiques du théâtre, il enveloppe le spectateur dans une sensation de prise de vue d'un théâtre qui n'a pas une intrigue vraie, mais qui sait quelque chose. L'intrigue, c'est simplement quelque chose qui évolue les spectateurs pour les faire comprendre que le théâtre, c'est du méta-théâtre. C'est-à-dire, le théâtre parle lui-même du théâtre. C'est pas l'intrigue qui compte, c'est le théâtre qui parle lui-même du théâtre. Son dernier romance, c'est... c'est de 25-26, c'est Uno Nessuno 100.000, et c'est l'histoire de Gégé Moscarda qui se regarde dans un miroir. Le thème du miroir est très cher à Pirandello, parce che il miroir c'est le double identité. Et il regarde son nez, et il se rend compte, je ne sais pas quel âge, à 40 ans, qui sonnelle est légèrement tordu. Elle demande à sa femme, mais tu t'es jamais rendu compte qu'il m'en est légèrement tordu? Et sa femme dit, oui, depuis toujours. Lui, c'est la première fois qu'il se rend compte de ça. Et donc, le roman s'appelle Uno, Nessuno, 100.000, parce que, pourquoi? Parce que lui, il se rend compte d'être uno, un, person, 100.000. C'est-à-dire, lui, à son propre regard sur lui, il est personne parce que tout le monde a différents regards sur lui, il est 100 000 personnes au même mois, en même temps, parce que tout le monde a 100 000 versions de son identité, on va dire. Il y a une note dolente dans l'histoire di Pirandello. A 1924 il s'inscrive au Parti Fasciste, jusqu'après l'élite Matteotti. Mais pourquoi ça? parce qu'il avait besoin de travailler. Parce qu'en Italie, si t'es pas, si t'es, à l'époque, tu n'étais pas inscrit au parti fasciste, tu ne pouvais pas travailler. Donc il s'inscrit au parti fasciste. Devant 5, il faut dire une chose. Quand Pirandelli était jeune, il était all'università, il faisait partie des fasciaux de combattement. Les fasciaux de combattement, ce n'est pas des fasciaux, c'est des fasciaux de combattement. Les fasciaux de combattement, c'était les premiers mouvements socialistes de l'époque. Après, il est parti au parti fasciste. Il avait besoin de travailler. Devant 5 à 28, il monte une compagnie qui s'appelle Le Théâtre d'Arte, Le Théâtre de l'Art. È la première femme, come dire in italiano, la prima donna, c'è l'attrice principale, c'è Marta Abba. Elle est 25 ans plus jeune che lui, pardon. E lui tombe amoureux follement de cette femme, qui à la fin, cette femme, il déleste, elle part aux États-Unis pour un vidéo comédienne, donc ça tombe dans l'eau. C'est la femme, lui, qui l'a vraiment aimé. Sa femme, sa première femme qui est tombée folle, elle l'a jamais vraiment aimée. Mais Marta Abba, c'était la première femme, la première actrice, l'actrice principale. Elle l'a toujours aimée, elle lui a donné toujours des rôles importants. Et lui, il s'en délaissait per cette femme. En 28, il se détache du théâtre rationaliste. E il commence a fare du teatro sulle mite. E a 1930 il y a la dernière œuvre de Pirandello, che è I giganti della montagna, Le gens de la montagne, che è un'œuvre surréaliste basée sulle mite. Che c'était un'œuvre incomplie, che était complie par son fils, la partie finale était complie par son fils, ma c'était un'œuvre totalement surréaliste. Donc il change un peu du rationalisme, de la réflexion rationnelle, il va au surréalisme. En 34, Pirandello il reçoit les prix Nobel pour les innovations dans le théâtre. Et dans les dernières années de sa vie, il réélabore ses textes. E il écrit, il fait un'œuvre complète de ses textes théâtrales dans Masque dénudé, e Nouvelle per un anno, parce que Nouvelle pour Pandana, parce que Pirandello a écrit aussi beaucoup de nouvelles, autre que des pièces théâtrales, autre que des romans. Il meurt en 1936. À ce point-là, je vous propose d'écouter une chanson, vu que Pirandello c'est sicilien. Pirandello il est né dans la contrada, dans l'amour du chaos. Ça s'appelait Chaos, cette chanson. C'est son amour. Et moi, je suis allé le voir, c'est à côté d'Agrigento. Et dans ce chaos, il y avait sa maison, très belle, très intimiste aussi, qui maintenant est devenu un musée, et il avait un pain. Dans ce pain, il allait toujours réfléchir, il allait toujours penser. C'est un auteur sicilien qui a débuté avec le théâtre en sicilien et qui après est devenu quelque chose, un prix Nobel, est devenu un grand metteur en scène. Mais je vais donner, comment dire, je vais donner honneur à sa sicilianité avec cette belle chanson de Juni Russo et Franco Battiato qui s'appelle Strade parallèle. Entre parenthèses, R sicilienne. On l'écoute.
Domenica giornata di scirocco, fuori non si può stare. per fare un po' frisco, metto la finestra a vaneduzza e mi vado a riposare. Caso potenza sciogli mo pensieri, au cuore vola, s'allumera, pigli forma e ti presenti, non posso riposare.
Je vais, pourquoi je me ça? Parce que bien de l'autre, sûrement représentant de la Sicilianité, cette première représentation théâtrale, c'était un patois sicilien. Et après, il a changé l'italien, il est devenu un auteur international. Mais dans ces chansons-là, il y a toute une magie liée au patois. On peut dire le théâtre du boulevard, mais c'est pas le théâtre du boulevard, parce que Pirandello c'était quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Et après il est passé à l'italien, bien sûr, mais son identité sicilienne est très restée. Et on est fiers, nous les Siciliens, d'avoir cet auteur. Et maintenant on passe à analyser des pièces. C'est des pièces de théâtre. La première, c'est Il gioco delle parti. Et la deuxième, c'est Così se vi pare. Dans cette analyse, bon, on va commencer l'analyse, après on discute. Il gioco delle parti. Il gioco delle parti, littéralement, ça veut dire le jeu de rôle, le jeu de parti. Déjà, on voit comme il y a du métathéâtre dans le théâtre. Qu'est-ce que c'est le métathéâtre? Le métathéâtre, c'est le théâtre qui parle de soi-même. C'est le théâtre dans le théâtre. Le gioco delle parti. Déjà, le jeu des parties. Les parties sont les rôles. Les rôles, ça peut être les rôles que chacun assume sur lui, mais ça peut être aussi les masques qui la société nous impose. Il faut penser à une société début du XXe siècle. Dans cette société-là, les canons, les choses sont très restrictives. Mais je rentre dans l'intrigue, je rentre dans l'histoire. Il y a un triangle amoureux. Il y a une femme, un mari et un amant. Dans ce triangle amoureux, qui fait un truc connu dans le théâtre de boulevard, il interprète tout ça d'une façon totalement différente. Ce n'est pas une chose comique, le triangle amoureux. C'est une chose qui nous fait solliciter la réflexion, on va dire. Et l'histoire, je vous raconte l'histoire. Il y a le mari qui est Léone, qui va voir tous les jours pendant une demi-heure sa femme Silvia. Pourquoi Silvia et pas Silvia? Déjà dans la V on retrouve un symbole de la vagin, mais cette Silvia là, il est que simplement Silvia parce que sa frustration sexuelle ne lui permet pas d'avoir ce symbole de la vagin. Donc Léone, il va voir tous les jours pendant une demi-heure sa femme qui ha un amant, Guido. Cet amant, c'est un héros un peu tragique, un peu romantique. Et Guido, il est quelqu'un de gentil, un gentilhomme, voilà. Mais Silvia, il est en même temps frustré. Il n'en veut pas de Guido, il n'en veut pas de Léone, il n'a pas cette sexualité, cet érotisme développé. Mais au moment où Léone, pour sauver les apparences, va tous les jours voir sa femme parce que le regard de la société lui impose d'être toujours en couple avec sa femme, même s'ils ne sont pas séparément officiels, mais il ne peut pas officiellement se séparer. Donc lui impose d'aller toujours chez sa femme. Le regard della società. E la società è qualcosa di importante, Pirandello. Le condizionamenti della società sono qualcosa di importante. Donc, qu'est-ce que c'è l'histoire? L'histoire, c'è che Léone va voir tous les jours sa femme, il est au courant qu'il a un amant, il est même presque ami de son amant, Guido, cet héros romantique, un gentilhomme, on va dire, gentleman. E a un moment, sa femme architette tutta une histoire, il développe l'intrigue. Il Léone commence a fare un discorso sulla vie. E il dit che la vie a Guido, il dit a Guido che la vie c'è come un gus death. Cet death-là, il faut qu'il doit être vide, vide. Tu fais tous les personnes haut, tous les personnes bas, tu souces le jus de l'œuf, et après il te reste cette celluloïde vide. Ça, c'est la vie pour Léone. Tu renonces à tes passions, tu renonces à tes sentiments, pour cette rationalité, pour cette videur. Et cette videur, ça te met dans la rationalité, ça te met dans la calme. Mais en réalité, il est quelqu'un de souffrant, il est quelqu'un qui n'accepte pas que sa femme a quelqu'un d'autre, mais rationnellement il l'accepte. Donc il y a une inertie à la base de Léone. Il n'accepte pas que sa femme ait quelqu'un d'autre, mais pour inertie il accepte. Il ne peut pas forcer les événements. Et à un moment, Silvia, il était derrière l'erido a mamma, il leone le fa cet exemple a guida la vie sans passion de la vie sans comme angus angus dev vid a mamma si le sa nerve di allor moi je si calcan de vid el pran le gus e le lance contro leone me le ave la fenestra uverti el pran pa leone e se gus la tombe su quatre gentilhommes qui étaient totalement défoncés. Parmi eux, il y avait un marché. Et dans cette histoire-là, l'œuf tombe sur le marché. Après, ces quatre gentilhommes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient tout bourrés. Ils cherchaient une prostituée, Pepita, qui habitait apparemment dans le même bâtiment de Cilia. Sauf qu'ils se trompent d'appartement. Il monte dall'appartamento di Silvia. Silvia mamma a moment quando il va se quattro bourgeois noble e comincia a jouer un rôle a s'exciter elle-même a dire elle faisait un peu entre guillemets la pepita la salope pour les exciter e après elle élabore un stratagème. Le stratagème c'est lequel? C'est ok, là, vous venez chez moi, vous me prenez pour une prostituée, donc vous êtes coupable d'offenser mon honneur. Et mon mari doit être responsable de défendre mon honneur avec un duel. On se rappelle qu'il y avait encore le duel dans les premières années de business. Donc son mari, Léon, il accepte. Le jour du duel, c'est le deuxième acte. Les docteurs vont chez Léon, les témoins vont chez Léon, Guido, l'amant, c'était aussi son parent, son témoin. Et il dit, il retrouve encore qu'il dormait. À un moment, il se rêve et dit non, moi je ne vais pas faire les duels. Mais comment tu acceptes les duels? Pourquoi tu ne vas pas les faire? Je ne vais pas les faire parce que je ne suis pas l'homme qui se couche avec ma femme. Je ne suis plus le mari. Ce qui doit défendre l'honneur de ma femme, ce n'est pas moi, mais c'est son amant, parce que c'est lui qui se couche avec ma femme. Donc Guido, cet héros tragique, romantique, il accepte de faire le duel, il accepte de se battre à mort contre ce marchiste qui est un expert d'armes. Il se bat, il fait le duel. À la fin, Guido, il est terriblement blessé, et presque à mort, on ne sait pas s'il meurt ou s'il meurt pas, et Leone, avec son inertie, son inettitude, il renverse la situation. Donc c'est un personnage qui joue un rôle de raisonnateur, parce qu'il raisonne sur les choses, il renverse la situation, et par sa passivité, il devient actif. Donc, l'action qui était jouée par Cilia, l'action qui était jouée par cette femme méchante qui veut la mort du mari, pour se débarrasser finalement du mari, après bouleversée et renversée pour le mari lui-même, qui dans son inertie, il renverse la situation. Et dans ça, dans tout ça, il y a tout un détachement de la vie, tout un comment dire, tout un déception par rapport à la vie. Et lui, il y a des très connues, comment dire, très fameuses expériences, très fameuses vers dans la pièce. Où il compare la vie à Angus Deff. Et tu dis, je vous lis en italien, après je vous le traduis. Tu devi guardarti te stesso, il sentimento che questo caso suscita subito in te e con cui t'ascolta immediatamente, grimendolo, ghermirlo e vuotarlo, trame il concetto e allora puoi anche giocarci. Guarda come se ti arrivasse all'improvviso, non sai da dove, un guscio fresco. Anefre, oui. Ma per qua anefre fresco, smoi? Pour te donner l'image des gars et des concepts. Si je suis prêt à le remplir, tu ne laisseras pas cueillir et tu ne laisseras tomber. Dans l'un des cas ou dans l'autre des cas, il se décomposera devant à toi et sur toi. T'es prêt, tu le prends, tu le trouves et tu le bois. Qu'est-ce qu'il te reste à moi? Un gousse vide. Et qu'est-ce que c'est le concept? Tu le trouves du premier par ton épingle et tu te divertis à le faire tourner. Et lièvement, désormais, tu les joues avec un pal de celluloïde, d'une main à l'autre, et là, après, paf, tu les crasses dans les mains et tu les jettes ailleurs. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie pour Léone. Ça, c'est le goût d'Ef. Conclusion de la situation. Avec cette déception pour la vie, Léone, il a fait évaluer sa raison, il a fait estimer sa raison et après il a, comment dire, renversé la situation. Lui qui voit la vie comme un gus vide, un gus def vide, il bouleverse la situation et il envoie la main de Cilia, la main de sa femme, à se faire tuer. Il n'est pas tué, il est blessé gravement, on ne sait pas s'il meurt. Pour cette déception, je vous invite à écouter une chanson toujours de Battiato. Tout à l'heure, on a écouté Battiato, qui est un chanteur sicilien comme Pirandelli, aussi sicilien. On va écouter une chanson qui est une chanson désenchantée. Une chanson qui a plus le goût de la vie. On écoute Magic Shop.
C'è chi parte con un raga della sera e finisce per cantare la paloma. E giorni di digiuno e di silenzio, per fare i cori nelle messe tipo a mandalir. Vuoi vedere che l'età dell'oro era appena l'ombra di Wall Street, la falce non fa più pensare al grano, il grano invece fa pensare ai soldi. Si cresce più mestieri nuovi, gli artisti pop, i manifesti ai muri, i mantra, gli arehare a mille lire, l'esoterismo di René Guénon. Una signora vende corpi astrali, i Buddha vanno sopra i comodini. Deduco da una frase del Vangelo che è meglio un imbianchino di Le Corbusier. eterna è tutta l'arte dei musei, carine le piramidi d'Egitto, un po' naif i lama tibetani, lucidi e geniali i giornalisti, supermercati coi reparti sacri che vendono gli incensi di Dior, rubriche aperte sui...
Boh, che schel di se chanson? Se chanson è di supermarché avec le trucs sacrés qui vont les encens de Dior. Jolie les pyramides d'Égypte, éternelle, c'est toute l'art des musées. Les Buddhas vont sous les chevaliers. Donc on voit ces déchantements, on voit ces détachements par rapport à la vie, même dans la chanson de Battiato. Battiato, c'était un grand philosophe qui avait une inspiration d'un côté orientaliste, d'un côté nihiliste, on va dire. A retournant à Pirandello, on analyse la deuxième pièce. Il nous reste pas beaucoup de temps. La deuxième pièce, c'est « Così è se vi pare ». Littéralement, « Second ça si vous semble ». Qu'est-ce que ça veut dire, « Second ça si vous semble »?« Second ça si vous semble », ça veut dire littéralement, parce que le titre français, c'est différent. Je ne me souviens plus du titre français. « Second ça si vous semble », ça veut dire « C'est cela ». S'il vous semble, ça veut dire la réalité est cela, s'il vous semble cela. Donc c'est tout un jeu sur la réalité. La réalité, elle n'a pas une vérité. Elle n'a pas une vérité absolue. Il y a plusieurs interprétations de la vérité, selon de comment on voit la vérité. On repense à Gégé, Mouscarde, qui se voit son nez, il dit ma femme me voit d'un côté, mais moi je me vois d'un autre côté, et l'autre me voit d'un autre côté, et le jeu du miroir. Et un pour cent, 100 000. Là, on discute de la réalité, on discute aussi de la folie. Thème très cher à Pirandello, aussi pour sa vie privée. L'intrigue. Il y a un triangle tragique. On a vu tout à l'heure, il y avait un triangle amoureux. Femme, amant, mari. Là, il y a un triangle tragique. Ce triangle tragique, c'est constitué par la mari, femme et belle-mère. Le mari, c'est il signor Ponza, Monsieur Ponza. La femme, c'est Madame Ponza. Et la belle-mère, c'est Madame Flora. Pourquoi on parle de folie? Parce que dans tous les cas, on voit que les personnages principaux, il y a une polarité entre la folie de Monsieur Ponza et la folie de Madame Flora. L'histoire, c'est simple. L'histoire, c'est les voisins qui sont agacés parce qu'ils pensent que ce Monsieur Ponza, c'est un monstre qui enferme sa femme et ne lui permet pas de voir sa mère. Après, il invite sa mère, Madame Flora, la mère de la femme, et lui demande « Mais pourquoi vous ne voyez pas votre femme ?» Vous savez, elle dit « Mais parce que vous savez, mon beau-fils, il croit en réalité que ma femme est morte, mais en réalité, elle n'est pas morte. Et je ne la vois pas parce que je ne veux pas perturber mon beau-fils. » Elle va quand même tous les jours en bas du bâtiment, elle ne peut pas monter à la maison, et donc il y a cette justification. L'autre justification de M. Ponza, c'est « Ma femme est vraiment morte, elle croit que sa fille est vive, je me suis remariée, et elle voit sa fille comme si c'est la même personne, mais c'est une autre personne, c'est pour ça que je ne l'approche pas à ma femme actuelle. » Qui a raison? Qui a tort? Qui est le fou? Qui n'est pas le fou entre les deux? entre ça il y a une curiosité, la société il a une curiosité exagérée, la société il impose la curiosité. Pirandello il parlait de corde fou et corde civile. Nous on doit allanter et resserrer et donner corde alla corde civile, che è la corde della società, quando non si comporta non le ce qu'il veut la società, e on doit resserrer e donner corde alla corde fou, quando non si comporta non chi on veut. Ma c'è qua la corde civile, la corde folle, dans cette histoire-là. C'est qui le fou, c'est qui dans la polarité de cette histoire, dans la schizophrénie, dans la bipolarité de cette histoire, le vrai fou. L'histoire, c'est simple. C'est les voisins qui sont la famille Agassi qui s'est vexée par rapport à l'histoire de cette dame, Madame Frola, qui refuse de les voir. Il veut voir les choses telles qu'elles sont. Il veut découvrir la vérité. Et il y a un personnage dans tout ça. Un personnage qui s'est l'audici. Ce personnage-là, il dit, mais la vérité n'existe pas. La vérité, il y a plusieurs façons de voir la vérité. La vérité, ça peut être une vérité réelle pour moi, pas réelle pour toi, pas réelle pour un autre. Réelle pour un autre, pas réelle pour moi. Qu'est-ce que c'est la vérité? On ne peut pas arriver à voir la vérité. À côté de ces personnages qui sont la société hyper curieuse, cette bourgeoisie de province hyper envahissante, il y a aussi un autre type de personnages qui représentent l'autorité, qui sont les préfets et les commissaires. Ces préfets et ces commissaires sont l'autorité, donc c'est sens de l'honneur, de l'autorité. On doit rendre compte à l'honneur et à l'autorité. Les préfets et les commissaires, à la fin, interrogeront le monsieur Ponza, qui est taché d'être un monstre parce qu'il cache sa femme. Et à la fin de tout, ils exigeront que la femme de monsieur Ponza vienne pour expliquer les choses, parce qu'elles ne sont pas du tout claires. On n'arrive pas à une vraie réalité. Les choses ne sont pas du tout claires. Bien, Madame Ponza, elle arrive. Et attendez là, parce que je vous lis la partie finale, la neuvième scène du quatrième acte, là où arrive la vérité. Cette vérité, c'est la femme de Monsieur Pons. Et cette vérité arrive voilée, parce que la vérité est voilée. Che altro possono volere da me dopo questo, lor signori? Qui c'è una sventura, come vedono, che deve restarsi nascosta, perché solo così può valere il rimedio della pietà apprestato. Qu'est-ce que c'est? La vérité, c'est seulement ça. Ça c'est signora Ponza, Madame Ponza gli parla. La vérité, c'est seulement ça. Que je suis, oui, la fille de Madame Flora. Et en même temps, la deuxième femme de Monsieur Ponza. Où et comment? Si, pour moi, aucun dédé. Pour vous, Madame Ponza, il doit être l'un ou l'autre chose. Non, monsieur. Pour moi, je suis celle qui vous me croyez d'être. Et l'audici, le personnage résonateur, il dira, et voilà, monsieur, qu'on parle la vérité. Et il finit la comédie et il finit, comme tous les actes, dans un rire éclatant. À ce point-là, je vais vous faire écouter un tube des années 60. Fè un tube qui n'a rien à voir avec Pirandello, effettivement. C'est une chanson sur la vérité. C'est une chanson, elle dit « La vérité te fait du mal et tu le sais. Personne ne peut me juger. » Mais c'est un tube sur une histoire d'amour, parce qu'elle trompe son mec, elle fait ce qu'elle veut, personne ne peut la juger. C'est totalement différent de la conception pirandelliana. Mais c'est rigolote, parce que dans les mêmes termes de la conception pirandelliana, il y a cette vérité qui fait du mal et tu le sais. On écoute Caterina Caselli, personne ne peut me juger, nessuno mi può giudicare. On écoute.
La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
La verità mi fa male, lo so.
Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più.
La verità mi fa male, lo so.
Dovresti pensare a me e stare più attento a te. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me. Chi lo sa perché? Ognuno ha il diritto di vivere come può.
La verità mi fa male, lo so.
Per questo una cosa mi piace. Scelto te. Se ho sbagliato un giorno, ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa e sai perché? Sta di casa qui la felicità. Molto, molto più di prima io t'amerò. In confronto all'altro sei meglio tu. Ed ora in avanti prometto che quel che ho fatto un dì non farò mai più. Ognuno ha diritto di vivere come può.
La verità ti fa male, lo so.
Per questo una cosa mi piace, quell'altra no.
La verità ti fa male, lo so.
Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te. Ed ho scelto te. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
E voilà, il Meret che a dire Daniela Ni sul Nino domani a Palermo. 88.4 Radio Galère. N'oubliez pas d'écouter les podcasts sur le site radiogalère.org en tapant l'émission Io domani a Palermo. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cette émission pirandellienne raciocinante et comment dire résonante, ça vous a plu sur un théâtre digne d'un prix Nobel. Je vous laisse avec, comme d'habitude, notre jingle et je vous dis à bientôt.
Io sono il fortunato ragazzone, recente acquisto dell'umanità. Ho una superba faccia da frescone, esuberante, imbecillità, sportiva a tempo perso, un po' monello. Con la pipetta in bocca me ne vo, atteggio a prepotente, a picchiatello, poi saputello, eppure nulla so. Ma Marcello. Io sono il piccolo Marcello, baffutello, sbarbatello, sfrontatello e spacciatello.
Marcello,
son più leggero di un fuscello, più prezioso di un gioiello, più innocente di un porcello.
Marcello,
Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù. È strano, lo so, ma un fascino, no, ce l'ho, ce l'ho, ma chi che bingrindina che ce l'ho.
Marcello,
son fatuo come un venticello, lieto come uno stornello, fesso come un somarello.
Marcello,
col microscopico cervello, più piccino di un pisello, penso solo che sono bello, sono il bello di mamma. Ormai con la bellezza solamente si può germire la celebrità. Sono molto noto infatti dalla gente che come me non tiene a che pensare. Io so cantare come Raffaiati e vesto con quel certo non so che, ho gusti delicati e raffinati, vorrebbe ognuno somigliare a me.
Marcello,
tutti mi chiedono il modello della giacca, del cappello, del colletto e dell'ombrello.
Marcello,
mi copiano tutti questo quello, dalla scarpa di vitello al mio passo di cammiello. Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù, non vedo che me, non so neanche me. Marce, beh, che c'è?
Marcello,
se a mezza voce canterello qualche sciocco ritorniello, canton tutti solo quello.
Marcello,
ma soldato questo quello, ma sta a casa, ognor Marcello. E perché? Perché son bello, sono il bello di mamma.